RFI 21h30 à Paris, les 19h30 à Abidjan et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Nemo en Peace.
À la une de ce journal, une affaire de contamination dans des cours d'eau. Cela s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où près de 185 personnes ont été légèrement intoxiquées après avoir avalé du poisson et de l'eau contaminée. Les autorités locales assurent que tout est rentré dans l'ordre. Une demande de clarification de la durée de transition de la junte en Guinée. Elle provient de l'Église catholique. Vous entendrez son secrétaire général. La conférence épiscopale interpelle également les opposants politiques ainsi que la société civile. Des forces de l'ordre en nombre, ce mardi dans les rues de Nairobi, la jeunesse du pays avait une nouvelle fois appelé à se rassembler. À l'image des manifestations anti-gouvernementales de la semaine dernière, nous sommes au Kenya dans cette édition. Et puis du sport et du football, trêve estivale oblige, les clubs s'activent sur le marché des transferts pour préparer la saison prochaine. La section féminine de l'Olympique Lyonnais en France s'est offert aujourd'hui les services de la buteuse malawite Tabitha Shawinga en provenance du Paris Saint-Germain. Des cas de légère intoxication dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Près de 185 personnes ont été touchées après avoir mangé du poisson et bu de l'eau contaminée. Des déchets miniers issus de la mine d'or d'Iti ont été déversés dans des cours d'eau. Aucun mort n'a toutefois été recensé. Et ce mardi, et les autorités locales et la société minière canadienne Endeavour Mining qui assure qu'il n'existe plus aucun risque. La correspondance à Abidjan de Binta Diagne.
Dimanche 23 juin, la vanne d'un pipeline utilisé pour évacuer des déchets miniers se fissure. Près de 3 mètres cubes de boue et d'eau de décantation se déversent alors dans un canal de dérivation sur près de 5 km et une petite partie aurait pu être déversée vers la rivière Cavalli, affirme le groupe minier. Les scientifiques du CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution, dépêché sur place, recueillent près de 15 kilos de poissons morts, indique une source proche du dossier. Le préfet de Zouanounia recense 185 personnes souffrant de diarrhée, de ballonnement ou de vomissements après avoir consommé de l'eau et des poissons. La société minière assure que cet incident a depuis été circonscrit. Ce groupe rejette catégoriquement les allégations de pollution massive du fleuve Cavalli et de mise en danger des populations locales, lit-on dans un communiqué. Un second incident serait survenu samedi 28 juin, selon le CIAPOL, qui s'est déplacé pour y faire de nouveaux prélèvements. Les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Le groupe Endeavour assure qu'aucun autre incident ne s'est produit. En attendant d'y voir plus clair, les autorités locales ont interdit la pêche et demandé aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet, indique un élu local. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'actualité en bref et ces émeutes en Mauritanie au lendemain de l'officialisation par la commission électorale de la victoire de Mohamed Oulcher El Razouani à la présidentielle de samedi. La nuit a été agitée notamment dans le sud du pays où les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, annonce que deux des émeutiers interpellés sont morts en détention. Un troisième plus tard, lui, à l'hôpital. Le ministère n'a néanmoins fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. L'Église catholique guinéenne se positionne à son tour sur la durée de la transition. Dans une lettre ouverte enregistrée début mai et jusque-là jamais diffusée, la conférence épiscopale invite les autorités à clarifier d'urgence le calendrier de la transition ainsi que son programme, sa stratégie et ses objectifs. Dans ce même message, l'Église interpelle les opposants et la société civile afin que toutes les parties définissent ensemble, je cite, un nouveau cadre de dialogue réellement inclusif. Le père Louis Gbilimou est secrétaire général de la conférence épiscopale de Guinée. Selon lui, 2 mois après l'enregistrement de cette lettre, le message est plus que jamais d'actualité.
En fait, c'est pour citer des faits qui aggravent la situation actuelle et sur lesquels on interpelle et les gouvernants et aussi les gouvernés. Il y a moins d'emplois et puis la flambée des prix des denrées alimentaires. Le manque d'électricité, les routes qui sont défectueuses avec des accidents, bon, disons, toutes ces interrogations sont liées aussi au fait qu'il n'y a pas de visibilité et puis de lumière sur le chronogramme. Il y a déjà des partis politiques qui sont en train d'annoncer des grèves concernant ce manque de visibilité sur le chronogramme qui concerne la transition. Bon, disons, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de cette transition qui avait été annoncée, donc il ne peut pas y avoir de changement ou bien de prolongation sans que ce soit en accord, en harmonie avec les uns et les autres pour éviter qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des soulèvements, donc ce qui pourrait agir sur l'ordre social.
Les propos du père Louis Gbilimou, secrétaire général de la conférence épiscopale de Guinée, recueillis par Sidi Yansané. Au Mali, le MSA, mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé local allié de l'armée malienne, a annoncé ce lundi l'assassinat d'Ismaïl Ag Aramat, l'un de ses chefs politiques et militaires. Il a été tué dans la soirée à Gao, proche de son domicile. Il avait pris part à plusieurs opérations contre les djihadistes de l'État islamique au Sahel, entre autres à celle qui avait conduit à l'élimination de l'un de ses chefs, Abu Azeifa, alias Igo. Certaines sources évoquent une possible action de représailles du groupe terroriste. Le MSA parle d'agresseurs non identifiés et dénonce un acte ignoble qui ne fera pas fléchir sa détermination. Les suites de la contestation au Kenya, après une semaine marquée par des manifestations populaires et anti-gouvernementales réprimées dans le sang, la jeunesse a de nouveau appelé à ce mardi à se rassembler. Nous sommes désormais quasiment une semaine après le retrait du projet de loi de finances par le président William Ruto. Ce texte qui prévoyait une hausse des taxes et qui avait poussé des dizaines de milliers de personnes à protester. Aujourd'hui, ce sont donc plusieurs centaines de manifestants qui ont battu le pavé dans le centre-ville de la capitale. Des jeunes qui se sont vite heurtés aux forces de l'ordre puisque cette fois tout était mis en place pour éviter les rassemblements. Correspondance de Gaël Lalex à Nairobi.
Dans les rues du centre-ville ce matin, les policiers en tenue anti-émeute sont légion. Le Parlement, les archives nationales, la Cour suprême sont bouclées, ce qui n'a pas découragé Klaus.
Aujourd'hui, on ne proteste plus contre la loi de finances, mais contre le président. Il doit démissionner. Tant qu'on est pacifique, tout ça, c'est conforme à la Constitution. Il ne nous aide pas. Vous entendez les gaz lacrymogènes ?
Très vite, les forces de l'ordre utilisent gaz lacrymogène et canons à eau. Elvis ne voit là que l'application concrète de tout ce qu'il reproche au président.
Notre gouvernement est aveugle. Il dilapide l'argent. Quand on demande nos droits, on nous gaze. On nous tire dessus à balles réelles. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il démissionne. On est une nouvelle génération et on se bat pour nos droits.
Le président William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs d'un grand dialogue avec la jeunesse. Pour Paul, tout cela n'est que poudre aux yeux.
William Ruto se prétend ouvert au dialogue, mais il n'écoute rien. Il a donné une interview dimanche et toutes nos préoccupations n'étaient que du vent pour lui. Aucune de nos questions n'ont trouvé de réponse. Sur l'usage de nos impôts, sur les assassinats durant les manifestations, même sur le déploiement de l'armée.
La génération Z a prévu une semaine d'action qui devrait culminer dimanche dans une grande manifestation. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, visé par l'ouverture d'une enquête préliminaire en France sur des soupçons de biens mal acquis. Une source proche du dossier a confirmé à RFI ses investigations. En fin d'année 2023, Mediapart avait révélé dans une enquête que des dépenses vestimentaires de la présidence tchadienne avaient atteint plus de 900 000 euros pour notamment des achats de costumes, de chemises et de vêtements de luxe. Et puis, du sport et du football, la période des transferts bat son plein pendant cette trêve estivale pour les équipes masculines comme féminines. Et on a appris aujourd'hui que l'une des meilleures joueuses africaines va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La Malawite Tabitha Shawinga est désormais une joueuse de l'Olympique Lyonnais après un passage par le Paris Saint-Germain. Le sujet est signé Cédric De Oliveira.
19 buts en 21 matchs, quasiment un but par rencontre, le chiffre parle de lui-même. La saison dernière, avec le maillot du PSG, Tabitha Shawinga a survolé le championnat de France féminin au point d'en être la meilleure buteuse. Mais elle a dû se contenter seulement de la Coupe de France dans son armoire à trophées. Visiblement trop peu pour l'insatiable avant-centre malawite qui a choisi désormais d'évoluer au sein de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club français, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Prêté l'an passé à Paris par le club chinois de Wuhan, Shawinga est cette fois transférée et elle a signé un contrat de 3 ans pour améliorer son palmarès. À Lyon, elle retrouvera la Norvégienne Ada Hegerberg ou encore la Française Wendy Renard. Et les duels avec ses anciennes coéquipières du PSG risquent d'être disputés. Mais à 28 ans, Shawinga, auteur également de 6 buts en 12 matchs de Ligue des Champions, semble avoir les armes pour aider l'OL à rester la référence en France et peut-être lui permettre de retrouver le sommet du foot européen.
Cédric De Oliveira, les clubs sont en trêve, certes, mais certaines compétitions internationales se déroulent en ce moment. C'est le cas de l'Euro 2024 en Allemagne. On connaîtra ce soir le dernier qualifié pour les huitièmes de finale. L'Autriche et la Turquie s'affrontent actuellement. Et ce sont les Turcs qui mènent pour le moment 1-0 par l'intermédiaire de Mery Demiral. Le vainqueur de ce match rencontrera en quart de finale les Pays-Bas qui se sont imposés un peu plus tôt dans la journée. Victoire facile des Oranges, 3-0 face à la Roumanie. 16 ans que les Pays-Bas n'avaient plus atteint ce stade de la compétition. 21h39 ici à Paris. Excellente suite des programmes sur RFI.